Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on est ensemble pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église. Aujourd'hui, nous allons parler de la figure de Monseigneur Saliège. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir l'abbé Jean-Claude Meyer, prêtre, docteur en droit et en théologie et spécialiste de Monseigneur Saliège. Bonjour mon père.
Bonjour Timothée. Heureux d'être avec vous.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Quelques éléments chronologiques. Jules Gérard Saliège, né en 1870 et mort en 1956. Tout simplement, c'est un homme d'église. Il a été archevêque de Toulouse et il est notamment connu pour ses positions et ses prises de position pendant l'occupation où il a dénoncé les déportations des juifs et les exactions nazies. C'est un beau résumé pour parler de Monseigneur Saliège.
Oui, mais en même temps, il faut préciser quand même qu'il était prêt à faire ça, prêt par sa formation, par tout ce qu'il avait fait antérieurement.
Si on revient sur le début de sa vie, il va rapidement devenir orphelin.
Il est orphelin de père à 12 ans. Et là, il est né à Mauriac, c'est un fils de la Haute-Auvergne, oui. Et il participe, bien sûr, à l'école communale, ou plutôt à l'école des frères. Il participe aux jeux aussi de ses camarades. Il se promène avec eux sur les chevaux, sans selle, bien entendu. Il participe aux travaux des champs avec eux. Il est au contact véritablement dès son enfance avec toute la population. Ça va le marquer dans la manière de rencontrer les gens et d'être attentif aux personnes et en particulier aux personnes qui seraient délaissées.
C'était quoi son caractère, Monseigneur Saliège? Il aimait aller vers les autres? C'était quelqu'un d'extraverti?
Ah oui, il était extraverti. Mais en même temps, il avait un sacré caractère. On peut dire, quand il a été supérieur du grand séminaire de Saint-Flour, il lui arrivait de faire des farces, oui. Par exemple, on sait que ses collègues enseignants, parfois, laissaient leur clé sur la porte extérieure. Et lui se faisait malin plaisir, lui le supérieur, de les fermer à clé. Seulement un jour, ça lui est arrivé. Et alors là, c'était le soir, au réfectoire bien sûr, on attendait l'arrivée, mais tout à coup la porte s'ouvre brusquement et on voit le petit bonhomme qui était Saliège, il n'était pas grand, entrer avec fracas au réfectoire avec la porte de sa chambre sur l'épaule. Ça montre le caractère. De même une fois, s'il neigeait et les séminaristes étaient dehors, et lui, il prend un malin plaisir à en rouler un dans la neige. L'autre avait voulu lui dire « Mais monsieur le supérieur, ce n'est pas digne de vous !» L'autre se prenait un plaisir. Voilà quel était le caractère de Saliège.
C'était un sacré caractère, oui.
Puis alors, il fut trempé également dans la guerre de 1914.
Eh oui.
Au contact de toutes les misères. Il était d'abord infirmier, rappelé comme infirmier, puis quand l'âge, disons, de sa démobilisation serait venu, puisqu'il était amené en 1870, à ce moment-là, il demanda à être aumônier volontaire. Et sa attitude extrêmement courageuse, puisqu'il était en première ligne. En particulier, il s'est distingué le 23 juillet 1917 au Mont Cornillé, en se rendant en plein jour, à découvert jusqu'à la tranchée de première ligne, en grande partie détruite, pour y donner des soins, puisqu'il avait été infirmier, mais aussi les consolations aux blessés, aux mourants. Il recevra ce titre-là, la croix de guerre.
Pour revenir un petit peu sur le début de sa vie, on l'a dit, orphelin à 12 ans, ça ne lui a pas manqué de ne pas avoir de père?
Ça a certainement marqué.
Ça l'a marqué.
Ah, obligatoirement. Sans qu'il y ait fait allusion, mais enfin. Mais surtout, il était dans la vie de son village.
Il était très investi dans son village.
Ah ben, il était investi avec ses camarades. Et puis ensuite, il est allé au petit séminaire et puis au grand séminaire après. Au grand séminaire, il a fait élève au petit séminaire de Plot, puis au grand séminaire d'Issy-les-Moulineaux. Et ça, il faut bien remarquer combien il a acquis une spiritualité extrêmement profonde, qui est perceptible dans cette homélie qui était habituelle de faire le soir du sous-diaconat, et lui avait fait une homélie, la prière du sous-diacre, dont je peux vous lire quelques extraits. Le sous-diacre, c'est un être. C'est une âme qui s'est recueillie au pied du Christ, qui l'a vu passer, victime permanente, en offrande à son Père pour toute la race humaine. Qu'a-t-elle compris, cette âme ? Elle a compris tout l'amour de Dieu, un amour sans fond, un amour qui l'a conduit à cette terre où nous sommes, avec un besoin passionné de nous associer à sa vie, à lui. Elle a compris aussi, cette âme, l'incompréhensible indifférence qui accueillait cet amour et la meurtrière blessure que cette indifférence avait dû faire au cœur de Jésus. Ce soir, ma prière sera bien courte. Que tous les jours de ma vie, je puisse la redire avec la même sincérité. C'est la prière de l'âme, éprise de la souffrance, parce qu'elle est consumée de l'amour. Domine fame cruci, inebrieri. Amen. Seigneur, fais que je m'enivre de la croix.
Vous disiez, il a beaucoup appris sur la religion durant les années où il était au petit puis au grand séminaire. Il vient d'une famille qui est chrétienne, catholique.
Oui, très oui. Pratiquante, bien sûr.
Pratiquante. Sa mère va beaucoup lui apprendre.
Sa mère, bien sûr, elle lui a l'a formé. Et son père aussi l'avait déjà formé au plan religieux.
Donc c'est une continuité. Qu'est-ce qui va le décider à rentrer au séminaire ?
Ah bien, c'est son appel particulier.
On a quelques informations justement sur son appel qu'il a reçu.
Il est rentré jeune au séminaire, au petit séminaire. Donc, ce qui est surtout important, c'est cette manière d'ensuite de nourrir sa vie spirituelle.
Si on doit le définir, on peut dire que sa vie spirituelle est organisée autour des pauvres, des plus démunis.
Ensuite, sa vie spirituelle est liée aussi à son engagement. C'est le christianisme social de l'époque, de la fin du XIXe siècle. Et en particulier, il a été marqué par le sillon de Marc Sangnier. Bien sûr, Marc Sangnier a été condamné, bien sûr, hélas, il a été condamné. Marc Sangnier s'est soumis, mais Saliège lui a toujours été fidèle. Et à la fin de la vie de Marc Sangnier, Saliège était allé le réconforter.
Saliège va être ordonné prêtre à seulement 25 ans en 1895.
Oui.
Quelles vont être les premières années de sa vie de prêtre ?
Où va-t-il aller ? Il va être mis lui comme professeur au petit séminaire, puis au grand séminaire, dont il sera le supérieur, à Saint-Flour, oui. Et il sera appelé alors là à prêcher, à l'extérieur. Il avait un talent oratoire absolu.
Ah oui.
Mais seulement marqué, en particulier, il n'hésita pas à tenser les catholiques pratiquants.
Ah oui, pourquoi ça ?
Qui négligeaient leurs devoirs à l'égard de leurs employés.
Ah oui.
De leurs employés de maison. Donc, il était engagé véritablement dans ses prédications en tant que supérieur du grand séminaire. Il s'est engagé là-dedans, dans la ligne du christianisme social.
Pour une justice sociale ?
Ah ben oui, bien entendu, immédiatement.
Il va ensuite enseigner dans ces deux séminaires, le petit et le grand séminaire. C'est un juste retour des choses.
Tout cet engagement social va se retrouver ensuite quand il sera ordonné évêque, qu'il recevra le sacre épiscopal.
En quelle année, le sacre épiscopal ?
Alors, le sacre épiscopal, c'est peu après le 1925. Il a été nommé évêque de Gap. Et cela grâce à Mgr de Yobé, qu'il avait connu. Mgr de Yobé était l'aumônier général des aumôniers militaires de l'époque. Il l'avait apprécié et il en a fait son successeur à Gap.
Durant son ministère à Gap, est-ce qu'il y a des événements marquants ?
Alors, ce qu'il y a comme événement, c'est que, bien sûr, immédiatement, il visite son diocèse.
Oui. Elle est à la rencontre.
À la course, oui, on peut dire. Il est toujours dynamique à ce moment-là. En particulier, c'est un lecteur de Jacques Maritain. En particulier, il a lu l'ouvrage de Maritain, Primauté du spirituel. il a lu dès sa parution en 1927. On le sait puisque les citations qu'il donne dans la semaine religieuse de son diocèse, dans la quinzaine religieuse, ça s'appelle la quinzaine religieuse du diocèse de Gap, le 25 août 1927, il cite en somme Jacques Maritain, « L'option s'impose entre l'esprit de Philippe le Bel et l'esprit de Jeanne d'Arc. Un catholique ne saurait hésiter, un français non plus. Qui ne comprend pas aujourd'hui, comprendra peut-être demain. » C'était la réponse au slogan maurassien « Politique d'abord ». Un an après, le voilà nommé archevêque de Toulouse.
Ça a été un déchirement pour lui hein, de quitter Gap.
Un profond déchirement. Il quitta avec regret son clergé et ses diocésains. Mais il écrit avec une appréhension impensable.
Parce que le diocèse de Toulouse était plus important que celui de Gap aussi.
Il avait l'appréhension de trouver la croix à Toulouse.
Il y a une histoire en plus à Toulouse, beaucoup plus importante qu'à Gap.
Oui, mais il était attaché à son diocèse.
J'aimerais qu'on revienne sur un événement de sa vie, 1914, Première Guerre mondiale qui éclate. On l'a dit, il devient infirmier militaire. C'est quelque chose d'important dans la vie de Saliège. Ça va avoir une influence considérable sur la suite de sa vie et son dévouement aux autres.
Bien entendu. Bien entendu. Et c'est le contact avec la souffrance immédiate et la mort. Et avec des incroyants aussi. C'est tout.
Quel rapport, justement, il a avec les incroyants?
Un rapport extrêmement honnête. La compréhension. Et à Toulouse, il parviendrait ainsi, par son attitude, à calmer des oppositions. À Toulouse, immédiatement, il a le contact avec les plus humbles. Et dans la rue, il se promène, enfin il se promène, oui, et quand il circule dans la rue, il rencontre les ouvriers, éventuellement, il peut donner du tabac, par exemple, entrer en contact, il a le contact facile.
C'est un homme simple qui aime aller à la rencontre.
Ah, voilà,
on le sent là, c'est ce qu'on dit depuis le début de l'émission, c'est un homme qui est ouvert aux autres.
Ouvert à tous. Mais avec un sacré caractère, quand même.
Alors, ça, c'est autre chose. Ça, on le comprend aussi. Est-ce qu'il a inspiré, justement, d'autres figures religieuses de la région, Mgr Saliège?
Mais il a inspiré l'équipe de prêtres qu'il a constituée autour de lui. En particulier, ils sont immédiatement à Toulouse au bout d'un an. Il a parcouru tout le diocèse en un an.
Comme à Gap, là aussi, lui.
Immédiatement, il se met à l'œuvre. Il respecte la plupart des vicaires généraux qui avaient été mis en place par son prédécesseur, il les laisse en place.
C'est important pour la continuité.
Et la continuité. Mais en même temps, il découvre ceux sur lesquels il peut faire en somme son aile marchande. Oui, les plus proches qui vont collaborer avec lui. En particulier, le jeune abbé Louis de Corrège d'Hustoux.
Rappelez-nous, en quelle année il devient archevêque de Toulouse ?
1928.
1928. Donc on est quasiment 14 ans avant la lettre, oui. La fameuse lettre. Qu'est-ce qu'il va faire pendant ces 14 années ? Comment il va se distinguer ?
S'il prend d'ailleurs Louis de Courrèges comme proche collaborateur, en l'instant là, à l'archevêché, c'est parce qu'il a perçu en lui le même esprit de, disons, social et missionnaire. Louis de Courrèges était de 20 ans son cadet. Et leur pas s'était croisé à distance de quelques mois sur les pentes du Mont Cornillet, où Courrèges reçut une grave blessure qui garda toute sa vie un éclat d'obus au poumon.
On le disait, il se battait pour la justice sociale, ce que d'autres évêque, archevêque, prêtre ne faisait pas forcément à l'époque.
Mais seulement, c'est le courant social qui continue. Et en particulier, Saliège, comme Courrèges, bien sûr, qui a été choisi pour cela, et sont dans la ligne du pape Pie XI avec l'Action catholique. Donc Saliège va mettre l'abbé Louis de Courrèges-Dustoux à la tête de la Maison des œuvres, qui à l'époque a eu un rôle considérable, qu'on ne peut pas s'imaginer, hein, dans tous les domaines. Et Courrèges s'y investira. En même temps, c'est la mise en œuvre de l'Action catholique. Courrèges va avoir la charge de lancer l'Action catholique rurale, la JAC, la Jeunesse agricole chrétienne, et un autre Louis, dont Saliège dira qu'il avait deux Louis d'or, Louis de Courrèges, et Louis Gèze. Gèze était un militaire, officier d'artillerie, qui était rentré au séminaire après, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Évidemment, dans la même ligne de l'Action catholique. Et Louis Gèze s'occupera de l'Action catholique ouvrière, notamment de la JOC.
Mon père, on va faire une première pause musicale et on revient dans quelques instants.
Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être en présence de l'abbé Jean-Claude Meyer, prêtre, docteur en droit et en théologie et spécialiste de Saliège. Juste avant la pause musicale, on a fait un petit point sur les dates clés de la vie de Monseigneur Saliège. On l'a compris, c'était quelqu'un qui était très axé sur le social. Et il y a une date qui va être importante dans sa lutte contre cette justice sociale, ou en tout cas pour cette justice sociale. C'est en 1930, c'est ça?
Oui. En 1930, Saliège, archevêque de Toulouse déjà, qui s'était toujours montré favorable aux semaines sociales de France. Vous savez, cette université itinérante créée en 1904 par Marius Gonin, qui continue encore de nos jours, heureusement, eh bien, en 1930, il a participé à la session de Marseille qui était consacrée aux problèmes sociaux aux colonies. Il y prononça un discours qui fut très remarqué, concernant, c'est le titre, « Ce qu'enseigne l'Église sur l'éminente dignité de la personne humaine ». Déjà dans ce discours, perçait l'inquiétude devant la situation internationale, ce qui montre l'esprit ouvert de Saliège. Pas simplement sur la mission de son diocèse, mais également l'ouverture d'esprit, l'ouverture sur les questions de l'époque qui se posaient. Et à cette session, il découvre l'abbé Bruno de Solages. L'abbé Bruno de Solages était professeur de séminaire d'Albi, et déjà un grand philosophe qui s'était fait remarquer. Et là, l'abbé Bruno de Solages venait donner une leçon magistrale, c'est-à-dire une leçon d'une heure, hein, « Devoir, droit et responsabilité des puissances coloniales ». Alors là, cela enthousiasma Saliège. Et il se précipita devant l'abbé Bruno de Solages, mais comme il était petit de taille, il devait lever les yeux pour s'adresser à lui. Et tandis que Bruno de Solages était grand et svelte, il lui dit « Bruno, je suis content de toi, mon petit !» Mon petit, évidemment. Voilà. Mais effectivement, il était content de lui, et en sa qualité de chancelier de l'Institut catholique de Toulouse, comme archevêque de Toulouse, il le fit ensuite nommer comme professeur de théologie fondamentale à l'Institut catholique de Toulouse et ensuite comme recteur de l'Institut catholique de Toulouse en 1932.
Là, on est en 1930 et l'année suivante, en 1931.
Dès 1931, par la Semaine catholique de Toulouse, il essaie de former ses diocésains à la critique du bolchevisme d'une part et du néopaganisme nazi.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle le néopaganisme nazi?
Mais ce sont les textes déjà hitlériens qui commencent à se propager.
Donc, dès 1931, il se propage déjà.
Il est au courant de ce qui se passe en Allemagne. Et donc, il est au courant aussi par les lettres que publient les évêques allemands, mettant en garde contre ce néopaganisme. Et en particulier, il y a un texte remarquable. Enfin, devant les premières mesures anti-juives qui sont prises en Allemagne après la victoire de Hitler, devenu chancelier du Reich, il y a à Toulouse une grande réunion contre l'antisémitisme tenue au théâtre du Capitole avec les personnalités toulousaines, le maire de Toulouse, et les autres grandes personnalités. Il est invité et c'est le 12 avril 1933, il s'exprime ainsi. La Vierge, le Christ, les premiers disciples étaient de race juive. Voilà ce qu'il déclare ouvertement à la réunion de protestation, de public qui se tenait au Capitole.
Mon père, on va faire un saut dans le temps. On va aller en 1942 pour cette fameuse lettre de Monseigneur Saliège. Dans quel contexte? Quel est le contexte social et politique avant cette lettre déjà?
Alors, il faut aussi rappeler quand même que Saliège était un homme extrêmement cultivé. Et c'est à ce titre-là qu'il avait été reçu à l'Académie des Jeux Floraux. Son discours de réception fut consacré à l'intuition d'amour comme source de l'état mystique et de la création artistique. discours qui révèle sa grande culture philosophique, un connaissant Bergson en particulier, dont il évoquera sa mémoire au moment de décès de Bergson, et sa grande culture aussi théologique. Alors, le contexte aussi personnel de sa liège, il faut l'évoquer. En 1935, il se trouve atteint par les premières atteintes, oui, de la paralysie du bulbe rachidien. Progressivement, cela allait limiter ses mouvements et lui ôter l'usage de la parole. Lui qui aimait parler, lui qui aimait marcher, courir. C'est alors qu'il demanda et obtint la nomination de Louis de Courrèges d'Houstoux comme évêque auxiliaire en 1935. Il le chargera d'ailleurs de l'accueil des réfugiés espagnols. Déjà, s'exprime la solidarité. Alors, avec l'événement, quand survint la défaite de 1940, il faut bien se rappeler que les Français furent heureux de la prise de pouvoir du maréchal Pétain, qui est arrivé démocratiquement au pouvoir. À ce moment-là, Mgr Saliège exprima une allégeance, mais sans emphase, envers le gouvernement de Vichy. La rupture s'amorça lorsque Laval fit publier le deuxième statut des Juifs, le 2 juin 1941. C'est très net dans l'évolution de la pensée de Saliège. Le recteur de l'Institut catholique de Toulouse, Bruno de Solage, s'était déjà manifesté contre le régime de Vichy. Hein. Mais Saliège le proclame véritablement le 11 août 1941, donc dans les mois qui ont suivi le deuxième statut. Il profite pour cela de la consécration du diocèse et de la France au Sacré-Cœur. Il fit allusion alors aux souffrances infligées aux Juifs. Et la rupture éclata alors ouvertement quand se produisit le tragique événement qui survint au camp du Recebédou et que Thérèse Doty, qui l'avait fait nommer comme assistante sociale, alors début 42, 1942, l'Assemblée des cardinaux et archevêques de la zone sud, on pouvait parler quand même encore à ce moment-là, à la fin de l'année, ce ne fut plus possible. Et à ce moment-là, l'Assemblée des cardinaux et archevêques de la zone sud avait créé une aumônerie catholique des étrangers qui se trouvent dans les camps de la zone sud, puisque ces camps-là avaient été créés d'abord pour les réfugiés espagnols. Et avec la déclaration de guerre de 1939, le gouvernement de la République y fit aussi, en somme, en quelque chose incarcéré, tous les étrangers, notamment les opposants au régime nazi qui se trouvaient en France.
Mon père, on va faire une deuxième pause musicale et après on détaillera juste après cette pause musicale le contenu concret de cette lettre de Mgr Saliège qu'on a sûrement déjà tous entendu, mais on va prendre le temps de la relire et de voir un petit peu les conséquences qu'il y a eu.
Soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi. Quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais, chaque jour à chaque heure, j'ai besoin de toi, viens Jésus. Auprès de moi, chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi.
Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours en présence de l'abbé Jean-Claude Meyer, prêtre du Prado, docteur en droit et en théologie et spécialiste de Monseigneur Saliège. Mon père, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que le pape, dès 1942, c'est juste avant cette fameuse lettre de Saliège, va jouer un rôle important.
Mais oui, le pape faisait ce qu'il pouvait. Et on a une lettre du 8 mars 1942... Le nonce en France, le représentant du pape, Monseigneur Valerio Valeri, écrit la lettre suivante à Monseigneur Saliège. Le Saint-Père, ainsi que vous le savez, pendant l'année dernière, c'est-à-dire même en 1941 déjà, avait accordé des subsides pour soulager un peu les souffrances des internés de certains camps.
Les subsides, rappelez-nous, qu'est-ce que c'est ?
C'est une aide financière.
Une aide financière.
Pour leur venir en aide. Pour le moment, poursuit le nonce, je vais envoyer au comité catholique de Toulouse 200 000 francs, bien sûr, de l'époque. Je transmets le dit montant par ce même courrier à Monseigneur de Courrèges, votre évêque auxiliaire, afin qu'il veuille bien se charger, d'accord avec le père abbé, avec le père Arnoux et l'abbé Lagarde, de l'utilisation des sommes envoyées. L'abbé Lagarde, un prêtre de Metz qui est mobilisé, avait réussi à s'évader des camps de prisonniers, qui était finalement arrivé dans la région toulousaine et qui fut nommé donc par les cardinaux et archevêques de la zone sud comme aumônier des camps. Ultérieurement, il reçut la collaboration d'un jésuite, Roger Brown, qui était ami des juifs et qui le secondera efficacement. Donc, ça montre bien, le pape Pie XII faisait parvenir ainsi, par l'intermédiaire de l'annonciature, des sommes qui étaient destinées aux œuvres qui s'occupaient de l'assistance aux étrangers. Et en particulier, c'était cette somme ensuite contrôlée, Monseigneur de Courrèges contrôlait rigoureusement les dépenses. Il y a eu d'autres sommes qui ont été, chaque année, le pape en a envoyé d'autres. bien sûr. C'est ce qu'il pouvait faire. L'assistante sociale de l'association, mademoiselle Thérèse Doty, fut autorisée à pénétrer au camp du Ressebeidou, Noé, Le Vernet et Rivesalt, grâce, expliquera-t-elle, aux demandes qu'avaient appuyées Mgr Saliège et Mgr de Courrèges. Et le but était de permettre des visites aux Espagnols et aux Juifs qui résidaient dans ces camps. Mais avec l'occupation en novembre 1942, tout cela allait bien aller changer. Entre-temps, dès le mois d'août 1942, le gouvernement de Vichy fit arrêter et transférer à Drancy des juifs, et, enfin des opposants au régime nazi qui étaient incarcérés, en somme, au camp de Noé et de Porté. Et donc là, ça se produisit dans des conditions tellement effroyables que même les gendarmes qui escortaient étaient apitoyés et portèrent également des bagages des pauvres femmes âgées qui trébuchaient sur le chemin. Ce spectacle affreux et les conditions du départ émurent profondément Thérèse Doty, l'assistante sociale, qui avertit ensuite l'abbé Gèze et Mgr de Courrèges de la situation. Ceux-ci immédiatement lui dire qu'il fallait qu'elle en parle à l'archevêque, ce qu'il fit aussitôt. Ce qu'elle fit aussitôt. Et dans la nuit même, l'archevêque écrivit cette lettre qui fut tapée le lendemain matin par l'assistante sociale, la dactylo de la secrétaire de Mgr de Courrèges, laquelle dit ensuite dans sa famille, c'était une jeune fille, oh, quelle lettre!
Et bien justement, vous allez nous la lire, cette lettre. On l'a déjà peut-être tous entendue, mais ça fait du bien de la réentendre, de la réécouter une nouvelle fois.
Mes très chers frères, il y a une morale chrétienne, il y a une morale humaine qui impose des devoirs et reconnaît des droits. Ces devoirs et ces droits tiennent à la nature de l'homme. Ils viennent de Dieu. On peut les violer. Il n'est au pouvoir d'aucun mortel de les supprimer. Que des enfants, des femmes, des hommes, des pères et des mères soient traités comme un vil troupeau. Que les membres d'une même famille soient séparés les uns des autres et embarqués pour une destination inconnue. Il était réservé à notre temps de voir ce triste spectacle. Pourquoi le droit d'asile dans nos églises n'existe plus? Seigneur, ayez pitié de nous. Notre-Dame, priez pour la France. Dans notre diocèse, des scènes d'épouvante ont eu lieu dans les camps de Noé et de Ressebeidou. Les Juifs sont des hommes. Les Juives sont des femmes. Les étrangers sont des hommes. Les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères comme tant d'autres. Un chrétien ne peut l'oublier. France, patrie bien-aimée, France qui porte dans la conscience de tous tes enfants la tradition du respect de la personne humaine, France chevaleresque et généreuse, je n'en doute pas, tu n'es pas responsable de ces horreurs. Recevez, mes chers frères, l'assurance de mon affectueux dévouement, Jules Géraud Saliège, archevêque de Toulouse, à lire dimanche prochain, 23 août 1942, sans commentaire.
Cette lettre, elle a presque un côté patriotique.
Mais il est à la fois patriote
et homme d'église.
Et homme d'église. C'est bien la ligne de Jacques Maritain.
Quel retentissement elle va avoir, cette lettre? Elle va être lue partout.
Alors, elle va être lue dans le diocèse. Peut-être quelques difficultés à Toulouse, mais elle sera lue le dimanche suivant. Pour ceux qui ne l'avaient pas oublié. On sait en particulier qu'un curé de Comminges n'avait pas ses lunettes. Et alors, la lettre était parvenue et il avait oublié. À ce moment-là, c'était le dimanche. Un employé municipal se précipite, lui donne un télégramme de la préfecture interdisant la lecture de la lettre. Pour cela, il avait été amené à chercher ses lunettes, à faire chercher ses lunettes, parce que c'était urgent. Et aussitôt, ayant lu le télégramme, « Ah, maintenant que j'ai les lunettes, je peux vous lire la lettre de Monseigneur l'archevêque. » C'est typique. Cette lettre, il faut quand même savoir que peu de temps auparavant, le cardinal Gerlier avait envoyé le père de Lubac, jésuite, bien connu par la suite, pour tâter le terrain auprès de Saliège d'une lettre de protestation commune des cardinaux et archevêques de la zone libre. De Lubac écrira ensuite qu'il avait trouvé le cardinal Saliège prêt à entrer dans ce jeu-là. La lettre devait être commune, et seulement cet événement tragique de portée sur Garonne amena Saliège à protester immédiatement. Et dans les 8 jours, 9 autres évêques, archevêques, protestèrent. Notamment le cardinal Gerlier, l'archevêque de Marseille, Albi également, et les 8 autres, je ne peux pas les énumérer, mais aussi Monseigneur Van Steenbergen, évêque de Bayonne. Il était alors, lui, en zone occupée. Immédiatement. La commandante Tour ordonna l'interdiction de continuer la publication de la semaine religieuse de Bayonne.
Il faut quand même du courage, hein.
Du courage, oui, eh bien, il y a les conséquences, il ne fut pas arrêté, mais ultérieurement, son vicaire général, Dan d'Aguzan, fut arrêté et déporté à Dachau.
Qu'est-ce que devient Monseigneur Saliège après cette lettre ?
Après cette lettre, eh bien, il continue à administrer son diocèse. Le commissaire de police vient faire son enquête auprès de lui et il explique que il n'a pas critiqué le gouvernement. C'était ce...
non, justement, il le dit à la fin de la lettre, il a dit la France n'est pas responsable de ces horreurs.
Voilà, il n'y a pas de critique directe. La lettre de protestation qui suivit de 8 jours après de Mgr Théas, évêque de Montauban, alors au contraire, attaque directement le gouvernement. Il ne prend pas de précautions. Et cette lettre, plus rigoureuse encore que celle de Saliège, est distribuée, il voulait l'envoyer par la poste. Mais sa secrétaire, Marie-Thérèse Gineste, lui dit « Mais non, mais là, ça va être connu, ça va être arrêté. » Donc, elle lui propose, après l'avoir tapé, de la porter en vélo dans tout le diocèse. Elle ne sera pas seule, il y aura 2 autres personnes, dont un commandant en retraite, qui le porteront aussi la lettre. En vélo. Quand on connaît les distances du diocèse de Montauban, quel exploit. La bicyclette de Mlle Gineste, qui deviendra ensuite membre de la municipalité de Montauban, se trouve au musée Yad Vashem.
Mon père, on arrive à la fin de cette émission. Il nous reste 2-3 minutes. Si, en quelques mots, on doit résumer ce qui nous reste de Mgr Saliège aujourd'hui.
Alors, Mgr Saliège, bien sûr, a eu son équipe autour de lui. J'ai à peine nommé quelques noms, mais il y avait à l'Institut catholique le rôle important de Mgr de Courrèges, de ses collaborateurs, puisque lorsque eut lieu le débarquement en 1944, dans toute la France, il y eut des arrestations d'otages d'honneur.
Pour clôturer là-dessus, on peut dire que Mgr Saliège, que ce soit par sa lettre ou par les valeurs qu'il a défendues, ça nous sert encore aujourd'hui.
Ah ben oui, il y a eu, il ne faut pas l'oublier, le rôle de Saliège, également qu'il faut associer, bien sûr, celui de Mgr de Soulages, de Courrèges et surtout Mgr de Soulages, il y a des saints perpétués. Il y a un exemple qui me paraît touchant pour moi, bouleversant. 40 ans après ces événements, le 4 septembre 1984, un ancien étudiant de l'Institut catholique de Toulouse et du séminaire universitaire Pie XI, André Jarlan, se trouvait prêtre Fidei Udonum, envoyé par le diocèse de Rodez, au Chili, et particulièrement à la paroisse de la Vitoria. Il s'occupait aussi des pauvres de cette paroisse. Il se savait menacé. Et ce jour-là, c'était une protestation qui avait lieu dans la ville, dans sa rue, mais lui se trouvait en train de prier sur sa Bible, à son étage. Et à ce moment-là, il fut atteint d'une balle tirée par les carabiniers, en pleine tête. Il s'écroula sur sa Bible qui fut maculée de sang. L'abbé André Jarlan était resté au service de ses paroissiens pauvres et opprimés. Il fut bien dans la ligne du chancelier de l'Institut catholique de Toulouse et de son recteur des Années Noires.
Et on terminera là-dessus, sur cette image. Mon père, on arrive déjà à la fin de cette émission Vivante Église. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi à vous, auditeurs, d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien Vivante Église. Si vous voulez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.